Bonjour à tous et bienvenue sur Terre.
Environnement, nature, cadre de vie.
Je respire, l'air est pur, tout est calme.
Prise de Terre, le magazine de l'environnement.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être !
Lucille Solari.
Eh ben oui, évidemment, tous les goûts sont dans la nature. Les fous de bagnoles, de carrosserie, de pots d'échappement. Un peu à l'image de Bernard Blier qu'on vient d'entendre, que vous aviez reconnu. Bien, tout cela ont le salon de l'auto. Je crois que c'est au printemps, en tout cas, c'est à Genève. Et puis alors, de l'autre côté, les contemplatifs, les rêveurs, les poètes, les enfants, les assoiffés d'air pur. Bref, tous ceux pour qui la nature est un besoin vital et les animaux qui la peuplent un sujet d'émerveillement sans cesse renouvelé. Bien, tout cela, heureusement, ont le festival Salamandre, festival 100% local, 100% nature et 100% saisonnier. C'est au mois d'octobre, c'est le week-end. Et puisque nous, à Prise de Terre, nous appartenons résolument à la seconde catégorie, évidemment, nous sommes en direct, comme chaque année, du théâtre de Beausobre, en immersion totale dans cette 17e édition du festival Salamandre, avec, pour commencer, parce qu'il y aura plein d'invités, vous l'entendrez, mais pour commencer, comme chaque année également, à mes côtés, le directeur du festival, son fondateur, son éminence grise, éminence bonjour, Julien Perrault.
Bonjour Lucille.
17e festival Salamandre déjà, on se disait, parce que les portes viennent d'ouvrir, hein, le festival. Enfin, hier, il y avait le premier jour, mais pour aujourd'hui, les portes du festival viennent de s'ouvrir, il y a déjà beaucoup de monde. Vous êtes un peu le paléo de la nature, quoi.
Je sais pas ce que je peux vous répondre. Mais en tout cas, je pense que c'est heureux qu'il y ait en Suisse romande une grande manifestation sur ce thème qui est tellement important.
Avec chaque année au Festival Salamandre, un thème central.
Oui.
Et cette année, le thème qui a été retenu, c'est celui du jardin sauvage. Ça, jardin sauvage, jardin et sauvage. Il y a quelque chose d'un peu antinomique avec ces deux termes, non ?
Oui, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que le jardin, c'est le premier lieu de dialogue avec la nature et on peut dialoguer avec elle de différentes manières. On peut avoir un jardin avec un gazon ras quasiment stérile et puis des haies monolithiques en tuya ou en laurel. Tout ça sera vert, mais tout ça sera finalement quasiment stérile. Ou à l'autre extrême, on peut laisser complètement la nature faire et puis finalement, ça devient un jardin impraticable. On peut plus jouer au foot ou bien faire bronzette. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Et notre idée cette année au Festival Salamandre, c'est de vous proposer de mettre le curseur un peu plus loin en direction du sauvage pour donner aussi un coup de pouce à la biodiversité qui en a bien besoin.
Oui, parce que le jardin propre en ordre, c'est très suisse.
Oui, et c'est pas du tout positif du point de vue de la nature, parce que c'est un jardin il y a quasiment pas d'insectes, pas d'oiseaux, pas de petites bêtes. Et pourtant, on peut faire plein de choses dans son jardin pour la biodiversité, de garder un coin de prairie, de laisser du chenil de manière générale. La nature, elle a besoin un peu de désordre, de réfléchir à ce qu'on plante pour sa haie, peut-être de creuser une petite mare, d'avoir un mur de pierre sèche. Enfin, il y a plein d'aménagements qui sont possibles. Et on peut même faire aussi plein de choses si on n'a pas de jardin, mais qu'on a un balcon, par exemple.
Ouais. Alors, cette thématique du jardin sauvage, c'est une thématique qui est un petit peu dans l'air. On en parle quand même depuis quelques années. On en parle notamment à Prise de Terre. Est-ce que ça a été facile de trouver une programmation cinématographique, documentaire autour de ces sujets ?
Oui, on a trouvé beaucoup de films, beaucoup de très beaux films, soit sur des habitants du jardin, sur des animaux qui sont un peu des stars de ce milieu ou qui s'y sont souvent réfugiés parce que dans les zones agricoles, ils ont peut-être plus d'espace de vie, ou bien des films plus généraux, justement, qui nous montrent tout l'intérêt, finalement, de repenser son jardin pour la biodiversité et tous les petits miracles, du coup, que ce jardin va nous offrir au fil des saisons. Donc là, il y a pas mal de films qui sont sur cet axe-là, et puis il y a aussi des films sur des enjeux je dirais plus sociétaux, qui sont liés aussi à notre autonomie alimentaire, comme le thème de la permaculture, comme le thème des graines, etc.
C'est le thème du film qui commence maintenant. On a peut-être entendu la petite cloche.
Voilà, exactement.
qui annonce que le film va commencer.
Exactement. Ouais. Là, un très, très beau film, là, maintenant, sur l'éveil de la permaculture. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un thème important. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que je pense que ce thème du jardin, il est important si on a soi-même un jardin, si on a un balcon, mais on peut aussi l'expérimenter Par exemple, en participant à des jardins collaboratifs, ou bien en allant sensibiliser sa commune. Enfin, comme citoyen, je pense qu'on peut faire plein de choses aussi dans ce sens-là, s'il n'y en a même pas de jardin.
Jardin sauvage, c'est aussi le titre d'un film qui est à l'affiche du Festival Salamandre, qui a été projeté hier.
Oui, absolument, qui a fait salle Comblière et qu'on reprogramme cet après-midi à 14h20. C'est un film qui raconte l'histoire d'une famille qui s'installe dans une maison et qui découvre un jardin, je dirais, un peu banal. Et en fait, ils ont le projet de favoriser les animaux sauvages dans leur jardin. Et en fait, en plusieurs années, on voit finalement tous les aménagements qu'ils font et toutes les extraordinaires rencontres de nature qu'ils peuvent faire par la suite grâce à tout ça.
Ensauvager son jardin, je le disais tout à l'heure, on en parle de plus en plus. D'ailleurs, la RTS s'est associée à cette idée-là cette année. Juste deux mots, puisque on a eu la première édition de Mission B.
Oui.
Une opération RTS qui visait à encourager les citoyens de ce pays à mettre plus de sauvages dans leur entourage.
Oui, c'est un projet génial et on était très heureux hier aussi d'avoir un événement dans le festival qui était dédié à un bilan de cette première édition. Et on est très heureux que ce projet Mission B se renouvelle l'année prochaine.
Très bien. Alors nous, aujourd'hui, dans Prise de Terre, bon, on a parlé un petit peu du jardin sauvage. Comme ça, on a contextualisé la thématique d'aujourd'hui. Mais on va parler de plein d'autres choses. On va parler d'art plastique avec une très belle exposition qui est l'exposition centrale. Comme chaque année, il y en a une au festival. On va parler des renards. On va parler un peu du lynx, j'imagine, parce que Laurent Gélin sera tout à l'heure avec nous. Nous allons parler photographie animalière et notamment au féminin.
Oui, absolument.
Parce qu'on a du mal à en parler au féminin, mais on verra ça tout à l'heure avec Evelyne Pelaton de l'association suisse des photographes et des cinéastes animaliers qui fête cette année ses 50 ans. Nous parlerons compost, ça c'est important pour les jardins. Et puis on recevra en toute fin d'émission Jean-Michel Bertrand qu'on avait reçu il y a 2 ou 3 ans. Alors je ne sais plus exactement, il était venu présenter son film La Vallée des Loups et puis maintenant il y a une suite. Il nous en dira un mot tout à l'heure. Voilà, c'est le programme de Prise de Terre. C'est aussi le programme du Festival Salamandre cette année. On se retrouve dans moins de 3 minutes.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin.
Les fleurs des champs. Les fleurs des champs.
Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain. Il y a des vieillards, il y a des gamins. Il y a des grandes forêts de sapins. Il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, les cons s'y ramassent à l'appel. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des fours crématoires. Y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin.
Le petit jardin de Manu Chao et dans le petit jardin de Festival Salamandre ici à Beausobre, voilà, à Morges. Il y a aussi, outre des fleurs, il y a des fils de fer et des herbes folles. Gisèle Rime, est-ce que vous pouvez nous situer l'endroit où l'on se trouve là ?
Alors nous sommes ici au cœur du jardin sauvageon de Christian Voltz. On a reconstitué ici dans un espace de 350 mètres carrés un jardin extraordinaire qui présente les œuvres de Christian Voltz, les sculptures essentiellement et les gravures et les céramiques de Christian Voltz.
Comment on pourrait résumer l'univers de Christian Voltz ?
Résumer, c'est difficile parce que comme on peut le voir autour de nous, ça fourmille de petites choses, d'objets qui ont une deuxième vie, même une troisième, une centième vie, on va dire ça comme ça. Donc il y a résumer, comment dire ça, je dirais essentiellement c'est un monde de récupération revisité avec un œil poétique et drôle. On y trouve des animaux, on y trouve des humains, des bonhommes, ça raconte aussi le rapport de l'être humain avec cette nature-là. Ici, peut-être plus particulièrement, justement, avec des éléments du jardin. Donc, on a, en premier abord, plutôt des choses, on va dire, festives. Le jardin des récoltes avec les tomates, avec les carottes qui défilent sur des camions, sur des wagons. Et puis, on imagine une espèce de fanfare, comme ça, de personnages qui apportent les récoltes du jardin, qui vont du légume jusqu'à l'herbe sauvageonne, mais qui est en soi une sculpture. Et puis, plus on avance vers le fond du jardin, plus on va vers un jardin plus intérieur, avec le fond du jardin, avec les esprits du jardin, des espèces de petits squelettes comme on pourrait en trouver près du compost, par exemple, quand on est enfant et qu'on va gratouiller, et ces choses qui intriguent, et ce qui se passe dans la terre. Et puis tout au fond du jardin, on entre vraiment dans l'univers très très intérieur, je dirais plus dans la tête de Christian Voltz. Et puis là, on a des bonhommes qui sont très touchants et intrigants, qui nous regardent et puis qui nous interrogent sur nos grandes questions, on va dire, un peu plus existentielles.
Cette scénographie, finalement, que vous venez de nous résumer, Gisèle Rime, c'est vous qui avez signé cette scénographie, donc cette façon d'agencer la manière de montrer les œuvres de cet artiste strasbourgeois, parce que ça, on ne l'a pas encore dit. C'est une scénographie que vous avez signée en partenariat avec l'artiste.
Alors, on a passé un très chouette week-end avec Danny Waldvogel, qui est mon binôme, on va dire. On est allé à l'atelier de Christian à Strasbourg, et là, on a découvert son univers un peu plus intimement, on va dire. Et puis les deux, on s'est laissé porter. On se dit, bah tiens, qu'est-ce que raconte Christian Voltz avec tous ces petits bonhommes? Et nous, comment est-ce qu'on peut porter cette histoire-là au public? Et comme au Festival Salamandre, on a un public très mélangé de familles qui vont pas forcément non plus dans les galeries. Donc c'est aussi important de leur tendre la perche et puis de leur faire vraiment entrer dans un univers. Donc là, après, pour nous, c'était super parce qu'on adore tout ce qui est un peu rouillé, bricole et brico-jardin, on va dire. Donc c'était très facile pour nous d'imaginer une scénographie donc en petit cabanon, en carrousel, justement pour porter ces récoltes, etc. Donc c'était vraiment très facile à imaginer. Et tout ce qu'on a utilisé pour construire la scénographie est en récupération aussi. Donc on n'a pas acheté de bois, on n'a pas acheté de métal, tout est en matériau récupéré.
Et écolo responsable, du coup.
Le plus possible.
Alors, comme on est à la radio, Gisèle Rime, que les auditeurs ne peuvent pas voir physiquement, concrètement, les œuvres de Christian Voltz, pour conclure, je voudrais que vous choisissiez une des œuvres qui, à votre sens, est l'une des plus représentatives de son travail et que vous nous la racontiez. Je voulais choisir.
Ou alors, je regarde tout autour de moi, ils me regardent tous avec leurs yeux intrigants de boulons et de petites brosses et autres.
Peut-être sur le carrousel.
Allons sur le carrousel, on va s'approcher un petit peu.
Qui est à l'entrée de l'exposition.
Et comme ça tourne, on va peut-être.
On va marcher avec parce que...
On va prendre celui qui vient. Parce que finalement, je pourrais raconter une histoire avec chacune des œuvres. On voit ici arriver une petite taupe qui est dans un petit soulier d'enfant qui a été bien porté.
Il faut qu'on la suive.
On va la suivre. Et cette petite taupe conduit ce petit véhicule donc en forme de soulier. Et derrière elle, il y a une cage, une vieille cage à oiseaux, aussi montée sur trois roulettes. Dans la cage à oiseaux, il y a un nid et dans le nid, des tomates cerises. Donc voilà le trésor qu'apporte la taupe sur ce carrousel des récoltes. Et en dessus, on a un oiseau un peu bizarre avec un nez. Ou est-ce que c'est un oiseau ou un ange étrange? Je ne sais pas. Mais un nez en forme de couteau. Donc finalement, cette œuvre est très bien parce qu'elle a les deux côtés de Voltz. Ça veut dire qu'il y a le côté rigolo, le côté farfelu, rigolo et poétique de comment dire, détourner des objets. Et il y a aussi cette chose plus étrange, plus troublante, qui fait un petit peu des fois frissonner et puis qui nous amène dans quelque chose qui est du domaine du plus intime, je dirais.
Et tous les matériaux utilisés pour faire l'œuvre proviennent du jardin ?
Peut-être la cage à oiseaux, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on est vraiment, pour moi, dans l'univers du jardin avec la taupe, l'oiseau. Et puis, dans les vieux jardins sauvages, on a toujours plein de petites choses qui traînent dans un coin. Et c'est ça qui fait aussi la biodiversité des jardins.
Merci beaucoup, Gisèle Rim.
Avec grand plaisir.
On va s'arrêter parce que là on tourne en rond.
Tournicoton.
Prise de terre, tous les samedis de 10 à 11.
Voilà, merci à Gisèle Rim qui signe donc la scénographie de cette exposition Fil de fer et herbe folle qui donne à voir les œuvres de Christian Wolfs et Gisèle Rim que j'ai rencontré donc hier au cœur de cette exposition. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir en direct l'artiste Christian Wolfs. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Je vous regardais pendant que vous écoutiez ce petit reportage avec Gisèle Rim et je vous voyais avec un regard et surtout un sourire très attendri. C'est le regard que porte Gisèle Rim sur votre œuvre qui vous inspire ce sentiment qui pour moi est un sentiment de tendresse, mais je ne sais pas.
Alors, je dois dire que je suis sur un petit nuage depuis que l'expo a ouvert, même avant. C'est-à-dire que je suis arrivé mercredi, la salle n'était pas très jolie, c'est un gymnase, il y avait 2-3 parois qui étaient montées. Et en 2 jours, avec l'aide de toute une équipe vraiment volontaire, enthousiaste, fraternelle, on a réussi à créer vraiment un univers qui pour moi dépasse de loin ce que j'imaginais au départ.
Et je confirme, c'est vraiment très très beau.
Alors, je suis sur un petit nuage parce que j'ai beaucoup de retours positifs de personnes, et que ce soit des enfants ou des personnes âgées, c'est vrai, ça me touche de voir que ces petits objets détournés, ces petits objets de rebut avec lesquels je travaille et que j'assemble pour leur donner une deuxième vie, touchent autant les personnes. Et quand j'entendais Gisèle parler, c'est vrai que ça m'étonne moi-même que ça provoque ça. C'est, je sais pas si ça réveille un petit peu l'âme d'enfant enfouie, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas plus beau témoignage que les personnes soient émues, touchées devant certaines pièces.
Alors, c'est difficile d'évoquer votre travail, votre œuvre en radio, évidemment, puisqu'on n'a pas les images. On a un peu essayé avec Gisèle Rim. Mais maintenant que je vous ai en face de moi, je vous regarde et je me dis, bon, alors il y a les objets détournés et puis il y a aussi toute une série de dessins. Elle l'a bien expliqué, Gisèle Rim.
Ce sont des gravures. Alors,
voilà, les gravures. Il y a aussi des sculptures. Puis il y a un personnage récurrent. Je faisais cette visite hier avec quelques amis et l'une des amies en question disait, ah, mais tiens, ça me fait penser à ma vie de courgette. Alors, c'est vrai que il y a quelque chose de cette idée-là dans le graphisme, mais surtout, je vous regarde, je me dis, mais ce personnage, c'est vous. C'est vous que vous représentez.
Oui, on m'a déjà dit ça. Après, c'est difficile pour moi de le voir, mais évidemment, je travaille dans un atelier seul, dans le silence, et évidemment, je mets beaucoup de choses dans les personnages que je crée, et depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, mon travail a toujours tourné autour du personnage, la figure humaine, la figure animale et le rapport entre les deux, ou aussi les végétaux, mais peut-être un petit peu moins. Évidemment que c'est moi, évidemment que je suis touché par les petites bêtes, que je suis touché par le rapport que j'ai avec la nature quand je me balade, et aussi par tous les problèmes qu'on rencontre et dont on entend de plus en plus parler.
D'ailleurs, je me suis laissé dire que votre vocation d'artiste, justement, est née dans votre amour de la nature, et ça depuis la plus tendre enfance. Une enfance que vous n'avez pas tout à fait quittée.
Alors, oui, j'ai grandi à la campagne et c'est vrai que je fais des livres pour les enfants, j'écris des histoires, je les illustre, mais gamin, je ne lisais absolument pas, je détestais ça. Il y avait qu'une seule chose qui me passionnait, c'était de me perdre dans les champs, de courir après les oiseaux, de les observer, d'attraper des petits insectes pour pouvoir mieux les voir, de mettre au bord d'une mare et puis de voir les grenouilles. Enfin, c'est vraiment cet univers-là qui
comme
m'a...
Julien Perrault il y a quelques années.
Oui, on s'est rencontrés pour la première fois dans le festival là, et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs. Et je suis très touché de voir ce qu'il a réussi à faire, hein, cette sensibilisation qui est tellement importante.
D'ailleurs, vous collaborez avec la Salamandre puisque vous signez les illustrations. Vous collaborez en tout cas régulièrement avec la petite Salamandre. Ouais. Et la Salamandre Junior,
ouais.
Avec toujours, j'imagine, cette volonté de transmission.
Quand j'étais enfant, comme je vous disais, j'étais passionné et il n'y avait pas énormément d'ouvrages qui traitaient de la nature. J'avais trois livres dont je me souviens très bien, s'appelaient Dans les prés, dans les forêts, dans les marais. Et j'ai lu...
Et vous n'aviez pas la Salamandre encore?
Non,
parce qu'elle n'existait pas encore.
Mais non, malheureusement. Et quand la Salamandre Junior m'a proposé de collaborer, je me suis dit, mais... c'est exactement ce dont j'aurais eu envie, ce que j'aurais adoré lire quand j'étais gamin. Donc évidemment, j'ai tout de suite accepté et puis on a collaboré. Là, ça fait 12 ans qu'on collabore. Moi, je suis chargé de réaliser 4 pages d'activité tous les 2 mois. Donc voilà, trouver les idées pour faire sortir les enfants dans la nature, les faire ramasser des petits trésors et qu'ils puissent bricoler avec ça, qu'ils puissent observer, qu'ils puissent s'émerveiller de choses très très simples.
Oui, on voit, c'est absolument tout à fait l'esprit de la Salamandre, en effet. Alors, Christian Volz, vous êtes donc artiste plasticien, vous êtes illustrateur et aussi vous faites des interventions pédagogiques dans les classes pour les enfants de quel âge à peu près ?
Alors, je suis beaucoup intervenu dans les écoles avec des enfants. Ça va de la... Alors, c'est les écoles françaises, c'est la grande section de maternelle. Ça va jusqu'au CM2. Je ne sais pas si c'est pareil en Suisse.
Mais alors, CM2, j'ai aucune idée.
C'est 6-10 ans.
6-10 ans, d'accord. Okay. Mais, on reste en primaire, donc.
Ouais, c'est ça. Mais ce que je fais maintenant de plus en plus, c'est d'intervenir avec les adultes, hein, avec les enseignants, avec les bibliothécaires, avec les animateurs, de les faire travailler justement avec ces objets de récupération, de fabriquer des personnages pour que eux puissent après réinvestir ça dans les classes, dans les médiathèques et transmettre justement cette façon de faire tellement simple, avec 3 bouts de bois, 2 boulons, on crée un personnage et les enfants sont très vite en réussite et très vite.
Et ça les décolle un peu des écrans et des PlayStation.
Je vous le fais pas dire et c'est aussi un cheval de bataille pour moi.
Alors justement, à propos de cheval de bataille, l'idée c'est de stimuler leur créativité. Mais aussi de les éveiller à la nature et à la nécessité de la respecter.
Ah bah bien sûr, enfin je crois que il y a tellement d'enfants hors sol maintenant qui vivent dans des villes qui ont plus ce rapport avec les petites bêtes. Et c'est quoi le premier réflexe que je vois parfois, c'est on voit une araignée, on marche dessus, quelle horreur. Voilà, donc moi mon rôle c'est pas de dire ah c'est mal, mais c'est plutôt de poser la question. Mais il y a plein de moustiques. Mais pourquoi ? À qui la faute ? Ah, mais j'ai écrasé l'araignée. Voilà. Mon travail, si je le fais bien à travers mes livres, à travers mes expositions, c'est simplement de poser des questions, que ça puisse servir de départ de discussion entre parents et enfants. Voilà. Et là, j'ai bien fait mon travail.
Fil de fer et herbe folle, c'est donc le titre de l'exposition qui est à découvrir tout ce week-end dans le cadre du festival Salamandre. Christian Volz, je vous présente Laurent Gélin à votre gauche.
Bonjour.
Voilà, bonjour Laurent Gélin.
Bonjour, bonjour.
Photographe, naturaliste, animalier. Est-ce que vous avez vu l'exposition de Christian Volz?
Oui, j'aime bien son univers parce que moi j'ai un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tim Burton. Et il y a plein de références que j'aime bien dans ce que fait... ce réalisateur-là, et c'est vrai que ça ressemble un peu à ce
qu'on... Ah bah c'est un sacré hommage, hein. Merci.
Ouais, ma vie de courgette, c'est aussi un bel hommage.
Oui, tout à fait, c'est magnifique.
Très bien. Merci Christian Volz. Donc, Fil de fer et herbe folle à découvrir ce week-end à la Salamandre. Et puis, dans quelques instants, Laurent Gélin, on va parler... De quoi on va parler ? On va parler plutôt renard ou plutôt lynx ?
Oh, ça va être difficile de dissocier les deux. On va parler un petit peu des deux, alors.
Très bien.
J'aime rôder vers les fleurs perdues dans les jardins sauvages aux parfums d'ardoises et de rue.
des villes avant l'orage, la rosée de leurs yeux trop mauves reflète une lumière qui conduit parfois les vieux fauves et les anges en enfer. J'aime rôder vers les fleurs perdues dans les jardins sauvages et m'égarer dans les ciguës et dans les saxifrages, sentir la chair d'une figue verte qui s'offre lentement sur le rose d'une corolle ouverte à mon souffle tremblant. Jardins sauvages aux nuances des gris bleus des grues, des banlieues de passage, le velours de leurs lèvres humides, à l'ombre de leurs voiles, montrent les mains, tirent vers le vide, au murmure des étoiles. J'aime rôder vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, aux parfums d'ardoises et de rues, des villes avant l'orage, suivre le jeu d'une étamine, sur un œillet violet qui s'entrouvrait, qui s'illumine. Une larme de lait.
Le Jardin Sauvage d'Hubert Félix Thiéfaine. Le Jardin Sauvage de Festival Salamandre, je vous rassure tout de suite, est beaucoup plus gai que celui évoqué à l'instant par Thiéfaine, puisque nous sommes aujourd'hui à prise de terre en direct du Théâtre de Beausobre, où se déroule la 17e édition du Festival Salamandre. Et en face de moi, Laurent Gélin, photographe animalier. Donc, Laurent, la dernière fois qu'on s'est vu... C'était dans une clairière, si je me souviens bien, dans une forêt jurassienne. Vous étiez déguisé en buisson. Moi, j'étais déguisé en glaçon, parce qu'il faisait très froid ce jour-là. C'était pour un prise de terre grandeur nature. C'était il y a environ un an et demi. À l'époque, vous étiez sur la piste du lynx. Et là, je vous retrouve aujourd'hui, ici à la Salamandre, avec un livre et une expo sur le renard. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent Gélin ? Parce que le lynx vous a épuisé.
C'est un accident, Lucille. C'est la faute du monsieur qui est à ma gauche, qui s'appelle Julien Perrault, voilà. Qui a dû me voir avec Alessandro Stalé, qui s'occupe de la collection des livres de la Salamandre. Et puis, ils m'ont demandé si j'étais intéressé pour faire un ouvrage sur le renard. Et j'avoue que spontanément, je ne vais pas dire que je me suis affolé, mais je me suis dit, j'ai tellement de travail en ce moment sur l'espèce dont vous parliez tout à l'heure que je n'ai pas quitté le lynx, que peut-être j'allais pas forcément avoir la possibilité de faire un beau livre, parce qu'il y a plein de gens qui font des très très belles photos de renards, hein, et puis faire un livre avec la salamandre, mais il faut quand même avoir un certain standard.
Un petit coup de brosse à reluire en passant.
Non, mais c'est vrai. Ah, non, mais sinon, j'aurais pas suivi l'aventure. Mais c'est vrai que, en fait, en regardant un petit peu ce que j'ai fait, parce que c'est un petit animal que j'ai suivi, depuis tout jeune, en fait, hein, dès que j'ai commencé à m'amuser avec un appareil photo. Et puis j'ai regardé que j'avais quand même pas mal de stock et il manquait quelque chose, il manquait des chapitres forcément, il manquait la neige, il manquait quelques renardos, etc. Et puis en travaillant un peu pendant l'année, bah, j'ai fini par faire quelque chose qui me semble à peu près cohérent. Quoi.
L'Odyssée du renard, c'est le titre du livre qui paraît aux éditions La Salamande, c'est aussi le titre de l'exposition. Le livre, vous le co-signez avec François Moutou, qui est vétérinaire, je crois.
Qui est vétérinaire, ouais. Voilà.
Et avec une préface de Marc Giraud, qui est... Comment dire, un naturaliste, journaliste, je crois qu'il intervient sur les ondes de France Inter aussi.
Sur RTL, me semble-t-il, et je crois que c'est vice-président de l'ASPAS, me semble, si je ne m'abuse, ouais.
Voilà. Alors, ça, c'était pour être complète sur la présentation du livre. Maintenant, deux mots sur l'espèce elle-même, le renard. Le renard qui est certainement l'ennemi des basses-cours, mais qui est plutôt l'allié des jardins, surtout s'ils sont sauvages, non?
C'est surtout en fait un animal qui effectivement a eu une bien mauvaise presse dans le monde rural parce que on a toujours associé en fait le goupil avec le voleur de poules, mais c'est clairement pas et de loin son régime alimentaire principal. Donc on sait maintenant que c'est un animal qui se nourrit essentiellement de micro-mammifères, donc les campagnols, les mulots. On les voit très très régulièrement en juin quand on fauche les foins. On les voit même tardivement dans la journée en train de faire leur petit bond comme des chats et qui attrapent beaucoup de campagnols. Donc c'est surtout
l'allié de l'agriculture.
Exactement,
en fait.
C'est des alliés. On s'est même rendu compte, me semble-t-il, qu'il y a eu une étude sur la maladie de Lyme où les tiques sont énormément transportés par les campagnols et dans certaines zones où il y a de moins en moins de renards, on se rend compte que la maladie se propage de plus en plus. Donc c'est vraiment un animal qui a toujours eu une mauvaise presse.
Le renard est vecteur de l'échinococcose, qui est quand même une maladie parasitaire très grave.
Sérieuse, bien sûr, oui, bien sûr. Mais je dirais qu'avec certaines précautions, on peut l'éviter. Donc il suffit de pas ramasser n'importe quoi par terre, de le mettre immédiatement à sa bouche. Mais je crois que même les chats la transportent, cette maladie. Donc il faut tout simplement être relativement vigilant.
Alors, il est l'auxiliaire de l'agriculteur, on l'a dit. Or, pendant des dizaines d'années, on a lutté contre les campagnols plutôt avec des produits chimiques type bromadiolone. Aujourd'hui, je crois que le mouvement s'inverse un petit peu parce que les agriculteurs commencent à comprendre, en tout cas dans certaines régions, que c'est un auxiliaire intéressant. Il n'empêche qu'en Suisse, on tue quand même à peu près 20 000 renards par année.
Alors les chiffres, moi je les ai pas, j'aurais presque fallu demander à François qui a donc écrit...
Bah excusez-moi, mais je l'ai lu dans votre livre.
Hein. Oui, mais c'est pas moi qui ai écrit, Lucille, moi je fais les photos. Moi.
Ah mais vous ne lisez pas les textes qu'il y a
quand même. J'ai lu, j'ai relu, mais malheureusement ça fait pas mal de temps et je vieillis, je ne me souviens plus bien de tout. En tous les cas, les chiffres, je les retiens pas forcément.
Julien Perrault peut peut-être nous confirmer, non, même pas.
Ben oui, on en tire beaucoup,
ouais.
On en tire beaucoup.
Je confirme également.
D'accord. Ce qui est une aberration totale, parce qu'en fait, finalement, il se régule tout seul.
Alors
renard.
Moi, j'ai une anecdote, par exemple, quand j'étais enfant, justement, j'essayais de photographier ce renard en Bretagne, d'où je viens, et c'est vrai que cet animal-là est très, très, très chassé en Bretagne. Et donc, c'est vraiment un petit animal qui est difficile à photographier. Et dans la région où j'allais, j'avais un mâle qui était présent assez régulièrement sur les prairies que je fréquentais, et un jour, il s'est fait tirer. Et c'est rigolo parce que quelques mois après seulement, j'avais deux renards sur la prairie. Donc plutôt que d'en avoir un seul qui lui maîtrisait son territoire, eh ben j'en avais deux. Et du coup, on était complètement perdants parce que les chasseurs avaient pas du tout ce rôle qu'ils peuvent s'attribuer parfois de régulateur.
Alors, c'est intéressant parce que j'ai vu hier projeté ici à la Salamande le film de Marie Amiguet sur le retour du loup qui disait qu'effectivement voilà, tirer systématiquement le loup, ben ça ne faisait pas forcément baisser les populations. On parlera du loup, on dira deux mots tout à l'heure avec Jean-Michel Bertrand qui lui aussi a un film sur le loup. Est-ce que vous diriez que le loup et le renard, c'est un peu le même combat, je dirais, dans la représentation populaire du sauvage?
Alors,
c'est-à-dire un animal nuisible, quoi.
Oui, alors de toute façon, depuis des siècles, on voit les prédateurs comme des concurrents. Donc, le renard étant le tout dernier, tout petit prédateur qui nous reste dans l'Europe de l'Ouest. il s'est attribué les mêmes méfaits que les grands prédateurs auparavant. Mais on n'est quand même pas dans la même problématique. Le renard a aussi une façon de vivre et de s'adapter encore plus plastique que le loup. Et encore une fois, c'est un animal qui peut tout à fait vivre dans nos campagnes, même maintenant dans les villes, d'ailleurs on en parle dans le livre, sans poser des problèmes majeurs.
L'Odyssée du renard, c'est le livre, édition Salamandre, et c'est l'exposition des photos de Laurent Gélin à découvrir au festival Salamandre de Beausobre. Laurent Gélin, je vous présente la dame qui, peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, la dame qui est à votre, attendez, je regarde droite. Elle s'appelle Evelyne Pellato, elle est membre du comité de l'ASPN, l'association suisse des photographes et cinéastes naturaliste. Alors je suis très heureuse de recevoir Evelyne Pellato parce que c'est une femme, parce que je veux pas dire, hein, mais l'Odyssée du renard, Laurent Gélin, François Moutou, Marc Giraud, que des mecs. Bonjour.
Bonjour,
bonjour Evelyne Pellato. Alors cette association suisse des photographes et cinéastes naturalistes fête cette année ses 50 ans d'existence avec la publication de ce très beau livre avec une préface, d'ailleurs je l'ai noté, signée Laurent Wildenegger, qui lui n'est pas photographe mais qui est peintre.
Tout à fait. Et peut-être que c'était un peu hasardeux de demander à Laurent de nous faire une préface, mais il a très très bien joué le jeu en montrant, je dirais, aussi ses réticences par rapport à certains photographes de nature. De nature, dans ce cas-là, c'est un bien grand mot, parce que il ne la respecte pas, mais on en parlera peut-être plus tard.
Et Robert Reynard, qui n'était pas photographe non plus, a été membre de l'Association suisse des photographes et cinéastes naturalistes, donc l'ASPN, qui à l'époque s'appelait l'Association des chasseurs photographiques.
Et c'est très amusant parce qu'en fait, la quasi-totalité des associations à travers l'Europe étaient des associations de chasseurs photographiques. Et les Français, sans doute Laurent Gélin le sait, les Français n'ont pas aimé du tout quand les Suisses, ces petits Suisses, ont osé changer l'appellation et devenir une association suisse de photographes et plus tard, bien sûr, de cinéastes naturalistes.
C'est peut-être pour cette raison, c'est parce qu'on a associé chasse et photographie qu'il y a si peu de femmes dans cet univers. Je crois qu'il y a, vous avez, il y a combien
11
de...
11 membres. 11 membres sur 88 membres dans l'association.
Femmes.
En effet, 11 femmes seulement.
Oui.
C'est vraiment un tout petit nombre. Nous sommes très heureux parce que hier, à la première journée du festival La Salamandre, déjà 8 personnes ont manifesté leur intention d'être membres de notre association et 2 femmes, ce qui augmente la proportion.
Alors comment on explique que vous soyez si peu nombreuses, même si enfin on a le sentiment que petit à petit les femmes aussi investissent ce champ-là? Pourquoi? Alors, je disais, bon, parce qu'on appelait ça chasse et que la chasse, voilà, mais c'est... Bon, c'est un peu un cliché, hein, mais c'est vrai qu'on associe plus la chasse à une activité masculine. Enfin, je sais pas.
Moi-même, je ne le sais pas. Je reconnais que dans toutes mes activités sur le terrain, je rencontre, je dois l'avouer, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mmh. Et quand j'ai participé à des voyages, j'ai fait pendant des années des voyages avec 2 amis photographes, 2 amis au masculin. Je ne sais pas comment l'expliquer. D'habitude, les médias ne nous accordent pas une grande importance. C'est très, voilà, très difficile de faire sa place. Et vraiment, je vous dis un chaleureux merci, Lucille, de m'accorder et d'accorder à travers moi, c'est surtout ça qui compte, une petite place aux photographes féminines.
Mais pas une petite place, Evelyne Pellato. Vous voyez, c'est peut-être un peu de notre faute aussi, hein. C'est qu'on a peut-être aussi tendance toujours à se mettre dans un coin, à se faire discrète et à ne pas trop vouloir se montrer.
Oui, là, vous avez marqué un point, j'avoue, je reconnais.
Il y a peut-être un autre facteur aussi, c'est qu'au début, si on regarde le livre, c'est 50 ans d'histoire, ASPN 1969-2019, c'est qu'au début, c'est plutôt aussi beaucoup une affaire de scientifiques, en fait. Il y a beaucoup de biologistes et d'ornithologues. D'ailleurs, vous-même, c'est par l'ornithologie que vous êtes arrivé,
oui,
à la photographie.
Oui, absolument. C'est juste la totalité des fondateurs de l'ASPN étaient avant tout des naturalistes, des scientifiques. Vous avez cité Robert Henard, mais dans les ornithologues, et Dieu sait si c'est pas le moindre, il y avait Paul Géroudet qui était dans les fondateurs. Robert Henard est venu l'année d'après. Mais c'est vrai, moi-même, par, je dirais, un petit peu le hasard, pendant toute ma vie professionnelle, je n'avais pas le temps. J'étais toujours attirée, grâce à mes parents, par la nature. Je suis, contrairement à Laurent Gélin, je suis pas tombée dans la photographie très jeune. Bien au contraire, j'ai attendu la retraite pour bien la pratiquer. Mais c'est vrai que c'est les oiseaux qui m'ont fascinée. Mais je ne les connaissais pas. Alors j'ai acheté un petit compact. J'ai fait des photos qui étaient vraiment très laides. Mais au moins, je les mettais sur mon ordinateur. Je les agrandissais. J'avais mon guide d'identification à côté. Et j'essayais de mettre un nom sur l'oiseau que j'avais photographié. Je me suis perfectionnée. Et de l'ornithologie, un jour, j'ai eu envie de mieux témoigner des beautés des oiseaux d'abord. Et c'est pour ça que j'ai fait l'achat d'un meilleur appareil photo. Et ça a continué.
Alors, j'hésite un peu à donner la parole à Laurent Gélin. Parce que pour une fois qu'une femme tient le crachoir, j'aimerais qu'elle le tienne plus longtemps. Mais quand même, je voudrais avoir le regard d'un homme sur cette question de la féminisation du domaine de la photographie naturaliste. Pourquoi si peu de femmes? Pourquoi vous leur faites si peu de place, Laurent Gélin, vous les hommes?
Quand elles veulent se faire de la place, elles se le font.
Voilà, c'est de notre faute encore.
Elles le font de plus en plus. Et alors, ce que je trouve, moi en tout cas, c'est que la photographie animalière a été assez normalisé au début. Il faut s'imaginer, quand on parle de chasse photographique, c'était effectivement un esprit de chasseur. On avait, d'ailleurs on voit les vieilles images d'il y a 30, 40, 50 ans, c'était une espèce de trophée où l'animal était bien centré en plein milieu de l'image et c'était un trophée qu'on ramenait à la maison. Or, effectivement, je pense que c'est peut-être pas forcément la sensibilité féminine de vouloir juste avoir ce trophée. Donc, plus on voit des femmes se mettre à la photographie animalière, plus on voit une sensibilité qui se développe et qui ne ressemble effectivement pas à ce trait de caractère qui est l'animal en plein milieu de l'image. Donc moi, je vois de plus en plus de femmes qui ont leur propre sensibilité et qui amènent quelque chose de vraiment intéressant à la photo animalière. Donc petit à petit, peut-être que c'était tellement normalisé auparavant que les femmes ou même certains hommes n'osaient pas faire de la photo parce qu'ils considéraient que c'était pas ça qui était valorisé. Puis petit à petit, j'ai l'impression que ça fait effet. Quoi.
Donc quand même, de plus en plus nombreuses dans le domaine. J'aimerais d'ailleurs signaler que la semaine prochaine, ce sera un prise de tête à grandeur nature et que je serai justement avec une femme photographe elle s'appelle Myriam Dupouille et nous sommes allés tenter d'écouter le Brame, mais ce sera le prise de terre de la semaine prochaine. On va être obligé de conclure, Evelyne Pelaton, conclure sur cette ASPN en deux mots. Qui peut rejoindre cette association? Alors, les femmes d'abord. Non, je plaisante, mais...
Vous avez raison de les mettre en premier. On a bien retenu la leçon de Laurent Gélin. Nous ne serons pas plus petites que nous ne sommes.
Oui,
toutes les personnes intéressées par la nature de manière générale. On a parlé de photographie animalière, mais puisque vous m'offrez la possibilité d'en parler, les démarches de nos membres sont très variées. Leur approche de la photographie également. Et autant nous avons encore des membres qui sont des vrais naturalistes, nous avons de plus en plus de jeunes membres qui sont, eux, je dirais, dans la partie artistique et créative. Donc, toute personne qui a, et ça c'est important pour nous, le respect de la nature, nous sommes unis par un code d'honneur qui nous engage à renoncer à faire une photographie plutôt que de mettre en danger une espèce animale ou fragiliser un biotope.
D'accord, donc toute personne qui a un appareil photo, qui fait des photos dans la nature et qui respecte la nature peut rejoindre l'ASPN. Le livre s'intitule ASPN 1969-2019, disponible où?
Au stand ASPN, à la Galerie des Artistes.
Ici au Festival Salamandre. Donc précipitez-vous. Merci beaucoup Sylvie, qu'est-ce que je raconte? Evelyne Pelaton, je vois qu'on avance dans l'émission. Et que la fatigue commence à se faire ressentir. Bon, bah tiens, on va faire une pause musicale.
Prise de terre, tous les samedis de 10 à 11.
Hey, little sister, won't you come and sit down? I feel like talking, can you please spare me some time? Hey, little sister, I know I am.
been around. Let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Hey, little sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Hey, little sister, don't be scared to be yourself. It's the only thing you are, or just about the only thing that you have. When comes our times, know that you're not the only. Sister, don't you cry anymore. It's alright, it's alright. Nothing is forever lost. Hey, little sister, I know I'm not always around, so let me speak what's on my mind. When comes our time.
Hey Little Sister par Imani à 10h49 dans Prise de Terre. Prise de Terre toujours en direct du théâtre de Beausobre à Morges pour le 17e festival Salamandre. Julien Perrault, thématique jardin sauvage et pas de bon jardin sans bon compost.
Absolument, histoire de boucler la boucle, comme le fait si bien la nature.
Voilà, c'est mon sens de la transition et celui de Julien Perrault pour accueillir maintenant Jérôme Fessler. Bonjour Jérôme Fessler.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Proxy Compost, présente ici au festival. Proxy Compost, je comprends proxy comme proximité et compost comme compost. Donc, d'ailleurs, vous avez l'uniforme de circonstance avec un très joli tablier vert, compostage à tous les étages. De quoi s'agit-il ? Quel est le but de cette association ?
Bah, merci beaucoup de nous accueillir aussi au Festival de la Salamandre. Donc nous, notre association, on accompagne les gens qui veulent faire du compostage collectif en pied d'immeuble, avec ou sans jardin, pour composter à la fois les déchets de cuisine et les déchets de jardin, et puis boucler la boucle et permettre un cycle court et remettre ce compost dans des jardins s'ils sont disponibles. Donc nous, on est vraiment une association accompagnatrice pour mettre un peu de lombrique dans les rouages.
Ah, c'est joli comme expression. Le compostage de proximité au pied des immeubles, ça aussi, c'est un mouvement qui commence à émerger depuis quoi, quelques 3, 4, 5 ans ?
Ouais, je pense que ça fait plutôt il y avait déjà eu un mouvement il y a une vingtaine d'années. Après, depuis une dizaine d'années, il y a
Oui, mais en 20 ans, j'ai pas vu beaucoup de compost fleurir au pied des immeubles.
Tout à fait. Mais nous, ça fait depuis 2010 qu'on existe. Et puis, on se développe gentiment, mais sûrement. Et puis, on a une vingtaine de sites en Suisse romande maintenant. On espère continuer à développer ça avec des gens qui ont envie de participer, qui ont envie aussi de faire leur compost. Chacun est capable de faire un compost, mais nous, l'idée, c'est qu'on accompagne pour autonomiser les gens. Et surtout en collectif, il y a des fois quelques enjeux comme les risques d'odeur, que les gens aient des choses comme ça. Et donc on accompagne ça, là en tout cas pendant une année. Et puis ensuite les gens s'autonomisent et gèrent eux-mêmes le cycle naturel.
Est-ce qu'il y a de plus en plus de volontaires et est-ce que les régies immobilières sont ouvertes à ce type de proposition ?
Alors il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés et on répond, disons qu'on est en croissance en termes de développement de sites de compostage de proximité. Après, les régies, c'est toujours plus compliqué parce que il faut qu'il y ait toujours des gens dans les immeubles qui soient motivés pour porter le projet. Donc nous, on n'est pas là pour imposer des projets, mais on a toujours besoin d'avoir une, deux, trois personnes motivées qui sont d'accord de convaincre leurs voisins, qui vont trier leurs déchets, qui vont faire un compost. C'est pas beaucoup de travail, c'est très peu d'engagement, on va dire, en termes de temps, mais c'est simplement un engagement un peu moral pour dire qu'on va faire en sorte que ça fonctionne, puis que nous, on est là aussi pour faire le relais quand il y a des petits soucis, ou si on peut aider justement pour produire un compost de bonne qualité et le remettre dans les sols.
Alors, si je veux, j'habite dans un immeuble, je veux créer un compost collectif, je m'adresse à l'association Proxy Compost.
Oui, tout à fait.
Comment et où, à part venir ce week-end au Festival Salamandre et venir vous rencontrer à votre stand, puisque c'est là que vous présentez votre action. Mais en dehors du Festival Salamandre, comment je fais pour vous contacter et puis lancer mon projet ?
Bon, alors le plus simple, c'est toujours de passer par un coup de téléphone ou internet. On a une adresse donc www.proxycompost.ch en un mot. Donc ça permet aussi de nous contacter. Ou on est souvent sur des stands justement dans différents festivals ou à Habitat et Jardin ou d'autres lieux au courant de l'année, des marchés bio de Sauvable. Hein, enfin, on est là sur un certain nombre de stands où on peut parler de compostage.
Merci beaucoup Jérôme Fessler d'avoir répondu à notre invitation, un petit peu au débotté d'ailleurs aujourd'hui, dans Prise de Terre. Proxy Compost, c'est à l'adresse proxycompost.ch avec les 3 W habituels. Merci et bonne continuation à vous.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Bonne
journée. Voilà, il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission aujourd'hui et on ne pouvait pas la conclure sans recevoir le cinéaste Jean-Michel Bertrand. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Lucille.
Il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, on n'était plus sûr avec Julien tout à l'heure, vous étiez à cette même table, dans cette même émission pour présenter votre film La Vallée des Loups. Et cette année, vous revenez pour présenter la suite.
Ben oui, une suite logique finalement. Marche avec les loups.
Oui.
On sort de la vallée, on quitte la vallée et au lieu de enfin ce moment a été important et impératif, ces 3 années passées dans cette vallée, mais les loups se dispersent, les loups bougent, les loups ont cette capacité de mouvement et en plus ils s'autorégulent, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas d'être trop nombreux sur le même territoire et j'ai voulu raconter ça au travers de cette suite qui est une suite vraiment logique.
On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Laurent Gélin à propos des renards. Ouais. Et je lui posais cette question, je vais aussi vous la poser. Est-ce que renards et loups, finalement, sont réunis un peu dans un même destin des représentations populaires sur le sauvage ? Parce que autant une partie de la population souhaiterait éradiquer le loup, on a un peu la même problématique avec le renard qui est aussi considéré comme un nuisible et qu'on régule.
Ouais, on a exact...
Je mets le mot entre guillemets, évidemment.
Évidemment, le mot régulation, justement, est le mot ONI, pour moi, en tout cas. En fait, la régulation se fait d'elle-même dans la nature, évidemment, et ça fait très longtemps que ça dure. Et je crois qu'on peut vraiment, vraiment faire un parallèle entre le loup et le renard. Et on se rend compte aujourd'hui, en tout cas en France, qu'on a près de 600 000 renards tués. Chaque année, il y a toujours des renards, on crée des dispersions artificielles, la nature a horreur du vide, donc les renards reviennent, il y a des doubles reproductions, on a complètement cassé les rythmes biologiques, et j'ai peur malheureusement qu'on soit en train de faire la même chose avec le loup, mais avec un autre impact, c'est-à-dire que si on crée au travers du loup des dispersions artificielles, des doubles reproductions, des jeunes couples un petit peu paumés, opportunistes, on aura encore plus de problèmes de prédation sur les troupeaux, parce que là est bien le problème. Donc tout ça est très très proche et c'est une excellente question, évidemment.
2 mots quand même sur le film, sur ce qu'on pourra voir, parce que dans La Vallée des Loups, on était vraiment dans la vallée. Dans ce film-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez suivi les migrations des loups ?
Ben oui, j'ai essayé déjà d'attraper avec mes caméras automatiques des jeunes loups qui quittent cette fameuse vallée et de les suivre de façon un petit peu vraiment instinctive. Et ce voyage m'a emmené jusque dans le Jura. On est tout près d'ici.
Jura suisse.
Dans le Jura suisse. Et donc, ce périple qui s'est fait au départ, on ne sait trop comment. Un peu comme les loups qui partent en dispersion au hasard et qui trouvent un territoire au hasard et un partenaire ou une partenaire selon leur sexe au hasard. Eh bien, nous avons suivi ces animaux pour essayer, pour que le grand public comprenne le fonctionnement de ces grands prédateurs et déjà, en premier lieu, que le plus grand ennemi du loup en dispersion, ce sont les autres loups qui font le ménage sur leur propre territoire, et ce loup n'est pas le grand méchant loup qu'on imagine.
Jean-Michel, vous me rappelez le titre du film parce que je ne l'ai pas noté.
Facile.
Je ne m'en souviens pas. Dites-moi.
Marche avec les loups.
Ah, bah, bien sûr. Marche avec les loups.
Il y avait eu un petit film qui s'appelait Danse avec les loups. Oui. Vous savez, un petit documentaire. Et on s'est dit, bon, voilà.
Marche avec les loups à l'affiche du Festival Salamandre. Julien Perrault, c'est vous le chef des opérations à voir quand?
Alors, à voir ce soir à 19h15. Attendez, je prends mes lunettes. Ce soir à 19h15, donc c'est vraiment une avant-première du film avec un débat ensuite avec Jean-Michel. Et puis on le reprogramme demain dimanche, puisque le Festival Salamandre c'est demain jusqu'à 18h. Demain à 11h25, voilà. Marche avec les loups, vraiment un très très beau film.
Très bien, il nous reste un peu moins de 2 minutes, Julien. J'aimerais quand même que vous nous donniez envie de venir pour ces 2 derniers jours du Festival Salamandre. Quels sont les films qui sont un peu les films coup de cœur et qui restent à voir en salle?
Alors, plein de belles choses aujourd'hui. Le film Jardin Sauvage, dont on a parlé tout à l'heure, qui passe à 14h20 et qui raconte justement cette installation d'une famille qui réaménage tout son jardin pour la nature. Ce soir, on l'a dit, soirée spéciale avec toi Jean-Michel autour du loup. Et puis demain dimanche, il y a aussi des très beaux films. Moi, un coup de cœur peut-être, c'est le film dimanche matin à 10h15, pour les plus matinaux d'entre vous, Un jardin entre deux mondes. C'est un film très intéressant qui nous montre en fait le parallèle entre 2 jardins voisins. Un jardin avec des gens qui veulent protéger la nature et qui n'utilisent plus aucun produit chimique. Et un jardin malheureusement encore un peu dans un modèle traditionnel. Et on voit comment toutes les petites bêtes se débrouillent. Finalement, entre ces 2 jardins qui sont un peu entre 2 mondes.
Voilà, puis je rappelle aussi la très belle exposition de Christian Wolfs, dont j'ai aussi oublié le titre parce que j'ai perdu la feuille, mais vous allez me la rappeler.
Fil de fer et herbe folle.
Voilà, fil de fer et herbe folle. Jusqu'à demain soir à Beausobre. Merci beaucoup, Julien. Bonne continuation pour cette 17e édition du Festival Salamandre. Merci beaucoup également à vous, Jean-Michel. Bonne marche, alors.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Et à très bientôt. Voilà, merci à tous ceux aussi qui ont participé de près ou de loin à cette émission, notamment Bastien Meucli, qui était en régie ce matin. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prise de terre grandeur nature. Salut à tous, bon week-end.